Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à notre journal sur Radio Kapi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter les nouvelles les plus importantes de ce dimanche matin. Voici le principal titre. Assistance aux sinistrés, des intempéries à Kinshasa, distribution des vivres, d'eau et d'articles de première nécessité par le ministère des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité. Les victimes hospitalisées dans certaines structures médicales de la capitale sont également prises en charge. Violation armée dans les structures de soins au Nord Kivu. Médecins sans frontières condamnent fermement l'intrusion de rebelles du M23 à l'hôpital de Keshiro à Goma. L'usage de la force et des armes dans l'enceinte de cet hôpital a transformé une structure médicale en une zone dangereuse, déplore MSF dans son communiqué. L'application effective de la résolution 2773 pourrait enfin permettre à la RDC de mettre fin à la guerre et de pacifier sa partie orientale. C'est ce que croient plusieurs organisations de la société civile réunies au sein du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. Ces organisations s'activent pour la mise en œuvre effective de cette résolution. On en parle tout à l'heure avec Patient Bachombe, coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, qui est notre invité dans ce journal. Restez à l'écoute pour plus de détails. Mesdames, Messieurs, bonjour. Gisèle Cage vous présente ce journal. Commençons sans plus tarder par cette nouvelle. Le ministère des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité intensifie ses efforts de soutien aux sinistrés de récentes inondations dans la ville-province de Kinshasa. Depuis jeudi, la ministre Aziza Mounane distribue des vivres, de l'eau et d'autres articles de première nécessité aux victimes hébergées sur les différents sites. Vendredi dernier, une équipe a visité les victimes hospitalisées à l'hôpital général de référence mère et enfant de Barumbu ainsi qu'au centre de santé de référence de maternité Vidjana pour évaluer leur prise en charge médicale. Reportage de Billy Yvan Lutumba.
Comment l'anga Tumba Joël, enfin na commune Njili, charge.
Je m'appelle Tumba Joël, habitant Njili. Ici où je me retrouve, nous sommes bien pris en charge. Nous recevons les médicaments et nourriture. Les eaux nous ont envahis, nous avons tout perdu.
Affectés, démunis pour la plupart, ces victimes ne trouvent que leur réconfort par l'assistance du gouvernement, à l'instar de cette autre dame, elle internée à l'hôpital Vidjana.
Je m'appelle Ndaya Irène. Quand je suis arrivée ici, je n'avais plus d'énergie. Mais depuis que je suis prise en charge, je retrouve ma santé. Mais tous les habits que j'avais déjà achetés pour mon bébé ont été emportés par les eaux.
Les sinistrés de cette catégorie, celles qui ont donné naissance, ont reçu un engagement de la ministre Aziza Mounane de subvenir à leurs besoins vestimentaires ainsi que des nouveaux-nés. Docteur Patricia Ngongo, ministre provincial de la Santé, parle ici de la prise en charge.
Dans chaque site, nous avons le box de santé avancé. C'est dans ces box de santé que nous recevons tous les patients. Et puis par rapport aux patients que nous recevons, nous trions quels sont des patients que nous devons transférer dans des établissements de soins de santé de la ville. Les enfants, on les transfère là où il y a des pédiatres.
Signalons que d'autres visites ont été effectuées dans les quartiers sinistrés aussi d'hébergement Tata Raphaël pour se rassurer de la remise des vivres non périssables, des biscuits énergisants et un lot de sacs de sucre.
Le député national Jean-Claude Boiganga exhorte le gouvernement tant au niveau national que provincial du Kwilu à rétablir la paix à Kouamout. Cela permettrait aux déplacés installés au marché central de Malabo à Bandundu de quitter cet endroit. Pour cet élu de Bandundu, il est inconcevable que ces personnes continuent à vivre dans les marchés pendant plusieurs années. Il a exprimé cette préoccupation lors de la cérémonie des distributions de vivres et non-vivres aux déplacés. Une assistance du gouvernement congolais laissé par la première ministre Judith Suminwa lors de son passage à Bandundu le mois dernier. Le point avec Irène Bomaluzolo.
Bientôt, cela va faire 3 ans jour pour jour depuis que ces déplacés de Kouamout habitent dans des bâtiments qui ont été construits pour servir d'entrepôt au marché central de Malebo à Bandunduville. Jusqu'à ce jour, aucune disposition n'est encore prise pour que ces personnes en détresse puissent vider ces lieux et retourner dans leurs milliers de vies respectives à la suite de la persistance de l'insécurité à Kouamout. Situation que déplore le député national élu de Bandundu qui plaide pour qu'une solution idoine soit trouvée en faveur des s'est déplacé. Le professeur Jean-Claude Bouanganga.
Ce que nous déplorons, il ne faut pas que nous continuions à gérer des déplacés comme un fléau qui ne va jamais s'arrêter un jour. Il faut qu'on prenne des dispositions pour que nos frères et sœurs puissent quitter ce camp. J'insiste sur le fait que ceci est un marché. Et dans un grand centre comme Bandundu ici, nous ne devons pas accepter que ça reste un camp de déplacés. Il faut qu'on trouve une solution définitive pour les déplacés qui sont ici.
Il faut signaler que dans ce site d'hébergement, les conditions de vie des déplacés sont très précaires, occasionnant des maladies et des décès parmi eux. Affirmation de Bienvenue Kachama, président de tous les déplacés de Kouamouth vivant au chef-lieu du Kwilu. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Quittons Kwilu pour Kinshasa, exclu du parti Ensemble pour le changement pour avoir participé aux consultations initiées par le chef de l'État. Le député national Gratien Irantien sort de son silence. Il justifie sa décision par la présence des forces étrangères occupant le pays, estimant qu'une telle situation nécessite une attitude particulière. L'élu de Bounia dans la province de l'Ituri prend une opposition républicaine au service du peuple et soutient toutes les initiatives en faveur de la paix. Gratien Irantien de Saint-Nicolas s'exprime au micro de Vanessa Nkongolo.
Il est important aussi à l'opposition de ne pas toujours condamner ce qui se passe, mais de prêter aussi main forte pour que la gestion de l'État produise un effet positif pour cette population. Nous devons bannir avec cette façon de semer la haine dans la politique. Nous n'allons pas compter sur les autres pays pour ramener la paix en RDC. Nous sommes libres d'exercer notre pouvoir du peuple parce que nous représentons ce peuple-là. Donc je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation d'un parti politique pour aller me faire représenter quelque part en dehors de ces peuples, parce que mon chef c'est le peuple. Vous voulez que moi je reste là à regarder ma population mourir et au nom d'un chef de parti? Tous les jours ont-ils des gens au nord qui vous, tous les jours ont-ils des gens au sud qui vous, et aujourd'hui que je ne reporte pas ce que la population du sud qui vous traverse au nom de la discipline, je ne sais pas, à un parti politique, jamais de la vie. Il y a moyen avec les gouvernements de l'Union nationale, si les gens sont sincères au sein de ces gouvernements, ils peuvent relever les défis et apporter la solution à la question sécuritaire.
Le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, félicite le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux pour avoir activé son pouvoir d'injonction afin de juger le traître. Dans un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi hier samedi à Kinshasa, le bureau politique de ces partis politiques d'opposition extra-parlementaire demande au ministre de la Justice d'utiliser ce même pouvoir pour engager de poursuites judiciaires contre ceux qui ont invité et hébergé les éléments du M23 à Kinshasa pendant 14 mois aux frais de l'État. Écoutez à ce sujet Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC, dont ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le bureau politique du MDVC a analysé froidement la question du M23 et a réalisé qu'il y a impérieuse nécessité que les enquêtes soient ouvertes pour arriver à poursuivre ceux qui avaient invité et logé les éléments du M23 à Kinshasa. Nous encourageons le ministre d'État qui a pris en tout cas des mesures sérieuses dans son pouvoir d'injonction, exigeant, n'est-ce pas, le jugement de tous ceux-là qui avaient adhéré au mouvement M23. Cela, le MDVC encourage et exige que le même pouvoir d'injonction puisse être activé pour juger et condamner ceux-là qui avaient invité le M23 à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas comment un mouvement qui était défait continue à semer terreur et désolation dans notre pays.
Comme indiqué dans le titre, l'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, condamne fermement l'utilisation des armes dans et autour des structures de soins. Le dernier incident impliquant des hommes armés du AFC M23 a entraîné la mort d'une personne la semaine dernière à l'hôpital Kishiro de Goma où MSF opère. Trois autres personnes ont été blessées et deux membres du personnel de l'hôpital ont été violemment frappés. L'usage de force et des armes dans dans l'enceinte de cet hôpital a transformé une structure médicale en une zone dangereuse, déplore MSF dans un communiqué de presse publié vendredi. Le condensé avec jus de Mister Bilanda.
Ces événements sont inacceptables et ne doivent en aucun cas se répéter ni à Goma ni ailleurs, tape du poing sur la table Margot Grelet, coordinatrice des urgences MSF au Nord Kivu. Dans la soirée de vendredi 4 à samedi 5 avril, une vingtaine d'hommes armés appartenant au M23 AFC sont entrés dans l'enceinte de l'hôpital de Kieshiro à la recherche des personnes ayant trouvé refuge à l'intérieur de l'hôpital. Au cours de cette opération, une personne a été tuée, trois autres blessées. Les deux membres du personnel de l'hôpital violemment frappés. Ce violent incident n'est pas un événement isolé. Il reflète une augmentation alarmante de la violence perpétrée par l'ensemble des parties au conflit en cours, touchant les établissements et les travailleurs de la santé, ce qui met en danger la vie des patients et du personnel médical dans l'est de la RDC depuis le début de cette année. Selon MSF, ces équipes ont été confrontées depuis le début de l'année à une quinzaine d'incidents violents affectant directement les structures et hôpitaux qu'elles soutiennent dans les deux provinces. Sans garantie minimale de sécurité, les personnels soignants et les acteurs humanitaires ne peuvent travailler. Ils ne doivent pas risquer leur vie pour continuer à fournir des soins vitaux à la population, souligne Margot Grelet, qui demande à toutes les parties concernées de préserver les caractères civils des structures de santé.
Sachez aussi que le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières a rapporté plus de 50 décès, y compris un patient tué dans son lit à l'hôpital de Kieshiro à la suite de l'attaque survenue dans la ville de Goma et ses environs durant la nuit du 11 au 12 avril. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, le ministère alerte l'opinion publique nationale et internationale sur les nombreuses violations de droits de l'homme commises par le rebelle de l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise dans les zones qu'ils occupent. Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, fait face à une crise d'eau. Depuis près d'un mois, plusieurs quartiers de la ville sont privés d'eau potable et ce qui empêche certains ménages de se procurer une alimentation adéquate. La régie des eaux attribue cette situation aux difficultés de fourniture d'énergie électrique par la Société nationale d'électricité SNEL. Les explications Esther Ndalafina.
C'est depuis près d'un mois que les habitants de plusieurs quartiers de Mbujimayi éprouvent des difficultés pour accéder à l'eau potable. Témoignage de Aimé Zeba, habitant du quartier du Pumba dans la commune de Lakanché.
Chez nous, il n'y a pas d'eau. Quand l'eau coule là-bas, il y a beaucoup de gens. Pour trouver de l'eau, c'est toujours difficile. Pour préparer, on part très loin pour chercher l'eau, mais on ne trouve pas.
Cette situation préoccupe également Warano Kalenga, habitant du quartier Tchatchatcha.
Ces derniers temps, on a un problème de l'eau. Quand il y a du courant, le bidon, on le paye souvent à 250 francs. Mais actuellement, le bidon nous revient à 2000 à 1500 francs.
À la régie des eaux, on parle des difficultés dans la fourniture de l'énergie électrique. Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux pour les provinces du Kasaï oriental, Lomami et Sankourou.
Depuis qu'il y a un problème à Sassim, je ne reçois plus l'énergie SNEL. Bon, c'est avec l'énergie SNEL que je fonctionne avec ma grosse pompe là. Maintenant là, je suis en retour. Tourner au thermique pour ne fonctionner qu'avec une petite pompe de 400 mètres qui part. Avec la zone haute, on donnait 7 heures par jour. Maintenant, on donne que 3 heures.
Pendant que les habitants se lamentent suite à la crise d'eau, plusieurs maisons restent plongées dans le noir depuis près d'un mois. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le trafic ferroviaire entre les provinces du Grand Kasaï et certaines du Grand Katanga, telles que les Lualaba et le Haut Katanga, est interrompu depuis plus d'une semaine. La cause, une érosion sur la voie ferrée qui a laissé une partie des rails suspendus. La SNCC rassure que les travaux sont en cours pour rétablir la situation. Plus de détails avec l'administrateur du territoire de Louboudi, Jean-Paul Lacou. Jean au téléphone par Jean Gando.
Une tête d'érosion s'est créée au niveau du groupement Kibwe dans la chefferie de Mazangoule en allant vers Luena et Bukama. Jusque là, les efforts qui sont fournis, c'est les agents qui sont sur place de la SNCC avec la complicité du chef de groupement et de la population locale. Ils sont en train d'aider et couper court à l'évolution de cette tête d'érosion. Le trafic est coupé depuis un certain temps. Nous pensons que dissipé, tout sera les mises en ordre. Le trafic des trains n'a pas vraiment d'impact direct économique dans le centre de la cité de Louboudi. Parce que la route entre Fungurume et Louboudi est praticable. Il y a même des petits véhicules qui arrivent et puis surtout que les Chinois sont en train d'arranger cette route jusqu'au niveau du Kassai. Peut-être ça a de l'impact de l'autre côté. De Bukama, parce que tout ce qu'on trafique au niveau de Louboudi provient de Kolwezi, Fungurume et Lubumbashi. Ça vient souvent par véhicule.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le grand rassemblement de Laurent Gbagbo s'est déroulé un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Hier samedi, devant plusieurs milliers de partisans réunis à Dabou, 50 kilomètres à l'ouest d'Abidjan, l'ex-chef de l'État est revenu sur sa décision de retirer son parti, le PPACI, Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, de la Commission électorale indépendante, une CI jugée inféodée au pouvoir, selon le terme de la formation. Ce choix est défendu par les militants et ne serait qu'une première étape.
L'invité.
Réunis au sein du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, plus de 100 organisations de la société civile s'activent pour la mise en œuvre effective de la résolution 2773. Le coordonnateur de ce comité, Patient Bachombe, a réaffirmé cet engagement lors de la quinzaine citoyenne organisée vendredi dernier dans la salle de conférence de la MONUSCO à Kinshasa. Cet acteur de la société civile convaincu que l'application effective de ce texte permettra à la RDC de mettre fin à la guerre et de pacifier sa partie orientale. Patient Bachombe s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Patient Bachombe.
Bonjour Monsieur.
Pourquoi avoir organisé ces forums citoyens?
Parce que la population veut la paix. Et aujourd'hui, il y a un outil très important qui est la résolution 2773 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Certes que le gouvernement, la population a jubilé. Mais après cela, on a senti qu'il y a un calme, un silence apparent. Et nous avons décidé, non, nous devons nous appuyer sur cet outil pour pouvoir d'abord la mettre en œuvre afin de garantir que la paix revienne sur l'étendue de notre pays, particulièrement au nord et au sud Kivu. Raison pour laquelle nous avons réuni les acteurs de la société civile ici, et avons demandé à la MONUSCO de nous aider à mieux comprendre et cerner le contenu de cette résolution afin que nous puissions en comprendre les tenants et les aboutissants, les opportunités et les défis, de manière à ce que nous puissions nous engager en tant que société civile à accompagner la mise en œuvre de cette résolution 2773.
Après cette séance, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est que nous devons concevoir un plan d'action, et déjà un plan d'action concerté avec le gouvernement, un plan d'action concerté avec les partenaires techniques et financiers pour nous approprier, mais également sensibiliser et amener la communauté nationale à s'approprier cette résolution 2773. Nous devons aussi bousculer, faire pression, jouer notre rôle en tant que société civile pour suivre et évaluer la mise en œuvre de cette résolution. C'est ça l'essentiel. Parce que une des choses, c'est d'avoir la résolution. L'autre chose, c'est l'application effective de la résolution pour que la paix soit une conséquence et un résultat du travail, de la symbiose qui peut être menée, société civile, gouvernement et partenaires techniques financiers, particulièrement, je dis, partenaires internationaux, dont la MONUSCO.
Avez-vous les moyens de vos politiques pour bien accompagner la mise en œuvre de la résolution 2773?
Le premier moyen, c'est notre engagement et notre détermination. Et nous nous sommes mis debout pour y travailler. Et déjà, vous pouvez voir l'engouement avec lequel tous les acteurs de la société civile, près de 200 acteurs, 200 organisations de la société civile réunies ici, ont fait montre. Cela veut dire que nous avons les atouts. Maintenant, en ce qui concerne les besoins qu'il faut combler, ça, on doit analyser et voir qu'est-ce que nous pouvons avoir, qu'est-ce que nos partenaires peuvent avoir pour nous appuyer. L'essentiel pour nous, c'est de faire un travail, comme je viens de le dire, pour nous rassurer que la mise en œuvre de cette résolution est effective.
Dans le cadre de la quinzaine citoyenne, quel message lancerez-vous à tous les Congolais qui attendent les retours de la paix dans la partie orientale?
Nous leur disons dans ce cadre que nous organisons les quinzaines citoyennes en tant que Congolais, en tant que société civile, pour nous réunir et échanger sur les questions de la paix et des processus de paix qui sont en cours. Et nous voulons dire à tous les Congolais à travers le pays, mais particulièrement aussi à ceux qui sont dans les zones sous contrôle des rebelles, que nous, la société civile, nous nous sommes engagés, nous sommes debout pour défendre la République, pour nous mettre ensemble, pour suivre, évaluer et faire pression à toutes les parties prenantes pour que nous puissions chacun jouer son rôle comme il faut pour que la paix puisse revenir et que demain, nous puissions visiter le Nord Kivu, visiter le site Kivu et que nous soyons encore un seul pays, un et indivisible.
Maître Patient Bachombe, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Patient Bachombe, coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, s'entretenait avec Blaise Ndonga Lamayanda. Nous arrivons à la fin de notre journal. La mise en onde a été assurée par Polydor Basunga, la coordination par Jude Mystère Bilonda et la présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Capi.